Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tous les angevins connaissent les sept grandes statues qui ornent la façade de la cathédrale d'Angers, au-dessus du porche roman, le porche qui a été récemment restauré. Ces statues représentent Saint Maurice et ses compagnons de la Légion thébaine, martyrisés à Agone, dans le Valais, en 302. Ces statues datent du XVIe siècle. Le sculpteur, vous l'avez peut-être remarqué, a représenté les martyrs comme des soldats de son époque. C'est pour cela qu'ils portent des armures de lansquenets du XVIe siècle. Les artistes anciens ne reculaient pas devant de semblables anachronismes. Qui étaient Saint Maurice et ses compagnons? Et puis, comment se fait-il qu'il soit honoré comme titulaire de la cathédrale d'Angers? Alors, disons d'abord un mot de leur bourreau. Nous sommes à la fin du IIIe siècle. Depuis l'an 284, Dioclétien, un ancien esclave et même un fils d'esclave, règne comme empereur. Son règne, qui durera jusqu'en 305, fut le plus sanglant de tous. C'est sous cet empereur qu'eut lieu la dixième et la plus importante des persécutions à l'encontre des chrétiens. En 286, donc 2 ans après son avènement, Dioclétien divisa l'Empire et nomma comme co-empereur Maximien, avec le surnom d'Hercule, pour régner sur l'Occident, tandis que lui-même gardait le gouvernement de l'Orient. Et même un peu plus tard, en 293, l'un et l'autre s'adjoignirent chacun un César pour les aider dans leur gouvernement. C'est ce qu'on a appelé la tétrarchie. Deux empereurs appelés Auguste, régnant chacun sur une moitié de l'Empire, et deux Césars pour les seconder, ce qui fait que chacun finalement régnait sur un quart de l'Empire. Maximien, le collègue de Dioclétien, valait pas mieux que lui. L'historien Rohrbacher dit de lui qu'il était encore plus rapace et plus cruel que Dioclétien. Il avait sans doute la bravoure d'un soldat barbare, puisque c'était un barbare, mais il en avait aussi l'ignorance, la perfidie, la cruauté et surtout la brutale débauche. Pour l'heure, Maximien et Hercule devaient réprimer en Gaule une révolte de paysans qui ne supportaient plus la domination romaine. On est à la fin de l'Empire, tout est en train de s'écrouler. On a donné le nom de Bagaudes à ces révoltés. Et donc Maximien marcha contre eux, mais comme il manquait de troupes, parce que toutes celles qu'il avait étaient occupées sur les frontières du Rhin, les barbares menaçaient déjà d'envahir tout l'Empire, il en demanda à son collègue Dioclétien qui en fit venir d'Orient pour le dépanner. Et parmi ses troupes se trouva précisément la légion thébaine commandée par Saint Maurice. Les soldats de cette légion étaient originaires d'Égypte, de la région de Thèbes, d'où leur nom, légion thébaine. Mais fait beaucoup plus important, tous ces soldats étaient chrétiens. Tous. Et faut pas nous en étonner. Le nombre de disciples de Jésus-Christ était en effet devenu très grand dans l'Empire, et spécialement en Orient, et notamment en Égypte. Autour de Thèbes, vous avez entendu sans doute parler du mot de Thébaïde, le nom de cette région, des milliers d'anachorètes commençaient à peupler les déserts, et le christianisme devenait petit à petit, dans ces régions, la religion dominante. Et quand les jeunes gens ou les hommes étaient obligés de s'engager dans l'armée, s'ils étaient chrétiens, eh bien ils cherchaient à se grouper, à former des cohortes chrétiennes ou même des légions entières chrétiennes sous les ordres d'officiers qui étaient eux-mêmes chrétiens. Et en s'unissant ainsi, ils se fortifiaient mutuellement contre le danger d'apostasie et puis ils pouvaient échapper à toutes les pratiques idolâtriques des soldats païens, puisque à l'armée, comme partout, on multipliait les sacrifices aux faux dieux, et ils pouvaient, eux, en revanche, pratiquer leur religion en paix, ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs d'être d'excellents soldats sur qui l'Empire pouvait compter, et comptait de fait. Cette large expansion du christianisme à la fin du IIIe siècle, malgré les persécutions qui ont duré pendant 3 siècles, cela ne doit pas nous étonner. Tertullien, un siècle plus tôt, vers 197, pouvait déjà écrire dans son apologétique et son œuvre majeure, adressée au gouverneur romain. Voici ce qu'il disait. « Nous sommes d'hier, effectivement, ce n'était pas vieux le christianisme, nous sommes d'hier, et déjà, nous avons rempli la terre et tout ce qui est à vous, dit-il aux païens, les villes, les îles, les postes fortifiés, les municipes, les bourgades, les camps militaires eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum, nous ne vous avons laissé que les temples. » Alors l'armée de Maximien est donc en marche vers la Gaule et elle fait étape à Octodure. Octodure, aujourd'hui, c'est Martigny, en Valais. Et la légion thébaine s'installa à quelques kilomètres de là, à Agone, là où la vallée du Rhône se rétrécit et où se trouvent aujourd'hui l'abbaye et la ville de Saint-Maurice. Et l'empereur Maximien, qui était très ennemi des chrétiens, ordonna alors à tous les soldats de ses troupes de se rassembler autour de lui à Octodure, à Martigny, pour offrir des sacrifices à Jupiter et prêter serment de fidélité aux dieux de l'Empire. C'était une manière habile de repérer les chrétiens, qui évidemment ne voulaient pas se prêter à ce genre de choses. Et ce serment de fidélité comportait l'engagement de poursuivre partout les ennemis de l'État romain, c'est-à-dire les chrétiens, pour obtenir leur apostasie, et de tuer ceux qui refuseraient de se rétracter. Maximien, en effet, comme tous les empereurs persécuteurs des trois premiers siècles, haïssait les chrétiens et leur faisait la guerre. Partout où il apprenait qu'il y avait des chrétiens, il envoyait des soldats païens pour porter le carnage. Et que reprochait-on alors à ces chrétiens ? Eh bien, d'être chrétiens, tout simplement. Comme le disait Tertullien, donc déjà depuis un certain temps, avant un siècle avant l'épisode qui nous intéresse, il disait ceci, ce n'est pas un crime qui est en cause. On n'avait pas de crime à reprocher aux chrétiens. Au contraire, ils étaient les plus justes, les plus innocents de tous les citoyens. Ce n'est pas un crime qui est en cause, mais un nom. Et ce nom est poursuivi par une œuvre de haine. On fait la guerre au nom seul. Le seul crime des chrétiens, c'était d'être chrétien, le non-chrétien. Et ce nom devenait un prétexte pour imputer aux chrétiens tous les maux dont était affligé l'Empire en pleine décadence. Et des maux, il y en avait beaucoup. Donc le succès des armées romaines dépendait finalement de la destruction de cette race impie des adorateurs du Christ. Alors devant un tel abus de pouvoir, Maurice et ses officiers refusèrent d'obéir. Et toute la légion les suivit dans leur refus. Et lorsqu'on annonça à Maximien que les 6600 hommes, une légion ça faisait 6600 hommes, de la légion thébaine refusaient d'obéir à ses ordres, il devint furieux et exigea qu'elle fût décimée au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on tira au sort un soldat sur 10 pour le faire mourir après l'avoir flagellé devant ses camarades. Et Maximien espérait ainsi que les soldats survivants, épouvantés par le supplice de leurs camarades, ne résisteraient plus à ses ordres et qu'ils accepteraient d'apostasier et de poursuivre à leur tour les autres chrétiens. Mais cette pratique barbare, loin d'obtenir la soumission des légionnaires chrétiens, ne fit au contraire que confirmer leur résolution. C'est le résultat tout à fait inverse qui a été obtenu. Ces soldats chrétiens préféraient la mort plutôt que de renier Dieu et de persécuter leurs frères chrétiens. Et là encore, Tertullien l'avait annoncé dans son apologétique, c'est une phrase très célèbre qui est connue. Il disait aux persécuteurs « Vos persécutions et vos cruautés les plus raffinées ne servent à rien. Elles sont plutôt un attrait pour notre religion. Nous devenons plus nombreux chaque fois que vous nous moissonnez. » Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. C'est la croix de Jésus qui est forcément féconde. Nous connaissons tout le récit de cet épisode par un certain Euchère, un évêque, l'évêque Euchère, qui était archevêque de Lyon. Il est mort en 449, donc au milieu du 5e siècle. Il a laissé le récit de ce martyr de Saint-Maurice et de ses compagnons. Et il raconte donc que les survivants de tous ceux qui n'avaient pas été décimés, contraints par Maximien de poursuivre la persécution des chrétiens, persistèrent au contraire dans leur refus. Et donc Maximien ordonna à nouveau d'exécuter un homme sur dix, de décimer à nouveau la légion thébaine, pour que les survivants qui resteraient accomplissent enfin l'odieux travail de persécution. Mais les soldats s'encouragèrent mutuellement à demeurer inflexibles et Auchert précise même que celui qui les incitait le plus à rester fidèles à la foi, c'était Maurice, leur primacier, comme il dit, primicerius, c'est-à-dire leur chef, secondé par ses officiers, dont on connaît au moins le nom de deux d'entre eux, Exupère, que Eucher appelle Campi Doctor, instructeur, et Candide, qu'il appelle Senator Militum, donc c'était sans doute aussi un officier. Et Eucher attribue à Saint-Maurice une longue et fière réponse que Saint-Maurice envoya avec tous ses officiers à Maximien. Je ne vous la lis pas tout entière, elle est un peu longue, juste les deux, trois premières phrases. Voici ce que Saint-Maurice dit. « Empereur, nous sommes tes soldats, c'est vrai, mais nous sommes avant tout les serviteurs de Dieu. À toi, nous devons l'obéissance militaire, mais à lui, nous devons l'innocence. De toi, nous recevons la solde de nos travaux, mais de lui, nous tenons la vie. Nous ne devons pas, empereur, t'obéir aveuglément en toute chose au point de renier Dieu, notre Créateur et Seigneur, et aussi, que tu le veuilles ou non, le tien. Cesse de nous donner des ordres que nous ne pouvons commettre sans offenser Dieu, et tu nous retrouveras fidèles comme autrefois. Mais tant que tu nous obliges à choisir entre Dieu et César, c'est à Dieu que nous serons fidèles. » C'est l'écho de la parole de saint Pierre et de saint Jean quand ils comparurent devant le Sanhédrin qui les sommait de ne plus prêcher le nom de Jésus. Et saint Pierre répondit « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Non possumus non loqui. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas possible. » Alors Maximien comprit que les soldats thébains resteraient fermement attachés à la foi de Jésus-Christ et il abandonna tout espoir de les faire changer. Alors il ordonna de les exécuter tous. Et c'est ainsi que tous ensemble, furent passés au fil de l'épée, ainsi qu'un vétéran d'ailleurs, qui était également chrétien, qui passait par là et qui a été inclus dans le carnage, Victor, dont on a gardé le nom. Mais de ce grand nombre de martyrs, nous ne connaissons finalement que quelques noms, 6 exactement. Maurice, le chef de la Légion thébaine, Exupère, Candide, deux de ses officiers, Vital, Innocent, et puis le fameux Victor, le vétéran. Et cela se passait le 22 septembre 302. Alors la suite de l'histoire est un petit peu plus connue. Les corps des martyrs d'Agone, ensevelis dans de grandes fosses, restèrent pendant plus d'un siècle sans honneur et sans prière. Et à la fin du IVe siècle, saint Théodore ou Théodule, qui était l'évêque d'Octobure à ce moment-là, donc de Martigny, fut miraculeusement instruit du lieu de leur sépulture et il fit élever une première basilique en leur honneur à l'emplacement où aujourd'hui se trouve l'abbaye Saint-Maurice. Et un peu plus tard, Sigismond, qui était le roi des Burgondes, fonda le monastère qui devint rapidement une abbaye. Et le culte de Saint-Maurice se répandit partout, en Suisse, dans tout l'Empire germanique, en France, particulièrement en Savoie. Et au Moyen-Âge, beaucoup d'ordres de chevalerie se mirent sous la protection de Saint-Maurice et de ses compagnons. C'est le patron des militaires. Mais comment le culte de Saint-Maurice vint-il jusqu'à Angers ? Une tradition, c'est une tradition, on n'a pas de certitude, mais tout de même, rapporte que Saint-Martin de Tours, le grand Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, à la fin du IVe siècle, fit le pèlerinage de Saint-Maurice et demanda aux moines, qui étaient là depuis peu de temps, qui étaient juste installés depuis quelques années seulement, il demanda quelques reliques, et les moines refusèrent de lui en donner. Alors Saint-Martin se rendit au lieu même du martyr et creusa la terre avec son couteau. Le sang jaillit et il en remplit plusieurs fioles qu'il distribua ensuite à différentes églises, en particulier à la cathédrale de Tours, qui était sa ville épiscopale. Et c'est pour ça que la cathédrale de Tours fut longtemps dédiée à Saint Maurice, elle ne l'est plus aujourd'hui. Et puis il donna aussi une fiole à la cathédrale d'Angers, qui prit ainsi le nom de Saint Maurice. La foi et la prière de Saint Martin avaient ravivé le sang des martyrs morts depuis au moins 80 ans. À Angers, outre cette fiole de sang qu'on disait avoir été donnée par Saint Martin, on conservait à partir du XIe siècle la tête de Saint Innocent, un des compagnons de Saint Maurice. Et puis à partir du XIIIe siècle, un bras de Saint Maurice, ainsi que d'autres ossements de Saint Martyr que l'abbé de Saint Maurice avait donné à l'évêque d'Angers au XVIIe siècle. Mais la Révolution française a saccagé le trésor de la cathédrale et il ne reste plus rien aujourd'hui de toutes ces reliques. C'est simplement en 1839 que l'évêque d'Angers, Mgr Montaut, obtint de l'abbé de Saint-Maurice quelques fragments d'ossements des saints martyrs qui sont aujourd'hui conservés à la cathédrale d'Angers. Alors, quelle leçon pouvons-nous tirer de cette histoire édifiante ? Une leçon de courage, bien sûr, et puis une leçon de force, de charité. Saint Thomas explique que le martyre est à la fois un acte de force et de charité. De force, parce que les martyrs sont inébranlablement attachés à la foi et à la justice, en dépit de la mort imminente dont ils sont menacés. Il faut beaucoup de force pour tenir alors qu'on est menacé de mort. Et puis c'est aussi un acte de charité, parce que le motif premier et souverain qui inspire le martyr, c'est l'amour de Dieu. Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le martyr, plus que tout autre acte de vertu, est une preuve de charité. Parce que pour l'amour de Dieu, pour la vérité de Dieu, on sacrifie, ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire sa vie. Mais le martyr, c'est aussi, comme le dit l'étymologie d'ailleurs de son nom, un témoignage en faveur de la foi. Martus, en grec, ça veut dire témoin. Le martyr, c'est un témoin. Et donc, le martyr, c'est une leçon de fidélité, de foi. Les martyrs sont des témoins en ce sens que par leur souffrance poussée jusqu'à la mort, ils rendent témoignage à la vérité, mais pas à n'importe quelle vérité, à la vérité religieuse apportée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la foi qui fait les martyrs. Car la foi, vous le savez, ne comporte pas simplement la croyance intérieure, on ne croit pas simplement dans notre cœur, mais aussi la profession extérieure. Quand la foi est en danger, les chrétiens doivent confesser publiquement la vérité chrétienne. Et c'est ce que font les martyrs. Alors, que devons en conclure pour nous-mêmes ? Eh bien qu'il faut être des hommes de foi, à l'exemple de tous ces martyrs. Le bon Dieu ne nous demandera pas peut-être le même sacrifice suprême qu'il a demandé à ses soldats, et qui étaient des gens comme nous. Ce n'étaient pas a priori des gens qui avaient préparé toute leur vie cet acte de martyr par lequel ils ont terminé leur carrière. Ce que Dieu nous demande, ce que nous devons être comme eux, c'est des chrétiens convaincus, fidèles aux promesses de notre baptême, prêts à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, si le cas se présente et quel qu'en soit le prix. Et quand effectivement, si c'est le cas, nous serons capables, par la grâce du bon Dieu, d'être martyrs. Mais cette fidélité se prouve d'abord au quotidien, dans les petites choses. On ne devient pas martyr d'un coup, de manière spontanée, pas plus qu'on ne devient saint d'un coup. Un tel héroïsme est le résultat de toute une vie de petits sacrifices et de fidélité à la grâce, jour après jour, minute après minute. Et quel est le grand moyen de cette fidélité ? C'est la prière et l'amour de la croix de Jésus. Porter sa croix chaque jour par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, jusque dans les tout petits sacrifices demandés, si anodins soient-ils, c'est la voie la plus sûre pour grandir dans l'amour de Dieu et se conformer à Jésus-Christ et se préparer au martyr si c'est la volonté du bon Dieu. Et puis enfin, rappelons-nous que notre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Notre grand ennemi, c'est le péché. Ce ne sont pas les attaques extérieures des hérétiques, des juifs, des païens ou de tous leurs instigateurs, le diable. Ce n'est pas les maux physiques qui menacent l'existence des églises. Le grand danger, c'est le péché des chrétiens et particulièrement de leurs élites spirituelles, de leurs chefs. C'est là un point important à bien comprendre. Cela signifie que le mal véritable n'est pas à chercher d'abord à l'extérieur de nous-mêmes, en ceux qui nous veulent ou qui nous font du mal, mais en nous, dans nos péchés. C'est ce que notre Seigneur nous a enseigné. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. Eh bien, c'est la grâce que nous demanderons d'être bien fidèles aux promesses de notre baptême pour que si Dieu nous destine d'une manière ou d'une autre à faire de grands sacrifices, il nous trouve prêts parce que nous aurons été fidèles dans les petites choses. C'est une grâce que nous demanderons tout spécialement à la Vierge Marie, Reine des martyrs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.